Et ce soir, je vous propose un grand entretien avec un enseignant. Il parle de ses élèves en difficulté, il parle de l'école. Il s'appelle Rachid Zerouki. Ce soir, dans Être et Savoir, un grand entretien, tout simple, avec un enseignant exceptionnel, tout seul, à la fois humble et ambitieux. Rachid Zerouki n'a ni méthode à promouvoir, ni constat affolant à dresser sur les élèves d'aujourd'hui. Il a enseigné en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, où des élèves en grande difficulté suivent des cours en petits effectifs avec un professeur des écoles. Et depuis la rentrée, Rachid Zerouki est professeur en micro-collège à Marseille. Si cet auteur, il a publié Les Incasables chez Robert Laffont en 2020, donne de la voix, c'est d'abord pour parler des adolescents, des enfants. Pour dire ce que l'école peut, et peut parfois moins, pour affirmer une croyance en l'éducabilité de tous, une forme de morale de l'action enseignante, sans grandiloquence. Dans la conversation que nous vous proposons dans ce numéro d'Être et Savoir, Rachid l'Instit, c'est une sorte de nom de plume pour les réseaux sociaux, évoque ce qui le nourrit intellectuellement, l'importance des rencontres, l'exigence nécessaire pour faire progresser les enfants. Il va parler des difficultés et des réussites de ses élèves à Marseille et ça dessine comme un bout de la mosaïque qu'est l'école française en 2022. Rachid Zerouki vient tout juste de publier Les Décrochés, un ouvrage qui dresse les portraits d'adolescents en rupture avec le système scolaire. Et nous avons profité de son passage à Paris pour nous rencontrer en vrai chez son éditeur, Robert Laffont. Et j'ai commencé par lui demander pourquoi parler de ces élèves-là, les décrochés, au moment de la rentrée.
Alors je dirais que c'est le meilleur moment pour parler des décrochés, que j'ai appelé les décrochés, qu'on appelle communément les décrocheurs. Parce que c'est le moment où on parle le moins de cette problématique. J'ai voulu mettre à ma petite échelle un coup de projecteur sur ce public-là. D'autant plus que c'est un public qui va beaucoup m'occuper pendant les mois qui viennent parce que à partir de la rentrée, je vais être chargé d'un micro-collège. Donc je quitte la SECPA pour ce nouveau dispositif où on va accueillir des élèves qui sont en décrochage scolaire, qui ont quitté l'institution depuis quelques mois et qu'on va tenter de faire revenir.
Alors, quelle est la différence pour vous entre décrocher et décrocheur? Pourquoi vous changez de mot, Rachid Zerouki?
Alors moi, si vous regardez le contrat que j'ai signé avec ma maison d'édition, le livre s'appelait Les Décrocheurs. Et c'est vraiment vers l'aboutissement du livre que j'ai envoyé un message à mon éditrice en disant « Mais en fait... Voilà, je trouve que c'est plus des décrochés que des décrocheurs finalement. Là, si on regarde tous les portraits qui sont l'objet de ce livre, combien d'entre eux ont choisi de quitter l'école du jour au lendemain? Aucun, je dirais aucun. C'est un choix qui s'est imposé, c'est un choix qui a été nourri par tout un tas de facteurs très différents les uns des autres, mais aucun de ces jeunes et moins jeunes ne m'a dit « Moi voilà, je choisis en connaissance de cause » d'arrêter d'aller à l'école parce que je pense que ça ne m'apporte rien. Non, ce sont des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient été poussés à ça, poussés par des difficultés qu'ils ont trouvées insurmontables, des difficultés purement scolaires, poussés parfois par un harcèlement qui a été trop violent pour être supportable et supporté, poussés aussi, et ça, même si les jeunes ne le disent pas, mais par un déterminisme social qui les a contraints à juger que l'école n'était pas à leur place, ou encore poussés par, non pas un handicap, mais par une mauvaise gestion de ce qu'on appelle les besoins éducatifs particuliers. Hein. Tout ça, ce sont des raisons qui font qu'on ne peut pas dire que les décrocheurs choisissent de partir. On les pousse quand même un petit peu. Et c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre.
Rachid Zerouki, il y a deux choses presque un peu contradictoires dans le livre. Il y a l'idée qu'il y a quand même une vie hors de l'école. Par exemple, que si on est harcelé, bah, ça peut être une solution de ne plus être scolarisé et peut-être qu'on va trouver un autre chemin. Et puis, il y a l'idée que l'école, c'est quand même la voie de l'émancipation et qu'il ne faut pas rater sa rencontre avec l'école, que c'est extrêmement important d'aller aussi loin qu'on le peut, d'obtenir des diplômes, quels qu'ils soient, hein, et d'avoir un parcours scolaire qui nous Voilà, il y a cette idée aussi qu'on ne peut pas non plus promouvoir le décrochage.
Alors, vous avez un petit extrait qui tourne beaucoup en ce moment, sur, justement sur TikTok, mais aussi sur Twitter aussi. C'est tourné en dérision parce que c'est un mec qui dit qu'il est arrivé jusqu'à Bac plus 6 et au moment de rendre son examen final, il a rendu feuille blanche parce qu'il a dit à l'institution « moi je m'en fous de votre connaissance ». Et du coup, il y a quand même un certain pan des réseaux sociaux, un côté Startup Nation qui essaye de nous raconter une fable selon laquelle l'école ne serait pas une rampe vers le succès, qu'il faudrait quitter cette institution au plus vite et que ça ne conditionne en rien notre devenir professionnel. La réalité, c'est que non, en fait. Même si vous avez des patrons qui disent se baser sur les soft skills, sur les savoir-être plus que sur les diplômes, en réalité, voilà, quand on n'a pas de diplôme, on part avec un handicap dans le monde du travail. Voilà, on le voit sur les statistiques. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, en moyenne, c'est 1200 euros de salaire. À partir de Bac plus 2, la moyenne, c'est plus de 3000. Donc, c'est bien que les patrons, si, ils donnent beaucoup d'importance au diplôme. Et donc, il y a des choses qui se jouent. Alors, il faut à tout prix ne pas céder au fatalisme. On a quitté l'école sans diplôme. Il y a la possibilité toujours de chercher une formation. Il faut à tout prix raconter à ces jeunes qu'il y a des parcours de réussite qui se dessinent en dehors de l'école. Mais je crois qu'il faut aussi raconter à l'école et à ses dirigeants que bah, la responsabilité que nous avons est immense parce qu'il y a aussi un public qui parfois ne compte que sur nous. Et donc si on va raconter à ses dirigeants que tout ne se joue pas à l'école, que si on rate son parcours scolaire, on a toujours la possibilité de se rattraper ailleurs, moi je pense que ce n'est pas un discours politique à avoir parce que ça pousse peut-être l'institution à revoir à la baisse ses ambitions pour ses élèves et sa responsabilité dans leur parcours professionnel. Donc, je pense que voilà, c'est toujours un équilibre entre ce qu'il faut dire aux élèves et l'espoir qu'il faut maintenir et ce qu'on doit se dire nous-mêmes en interne à l'école et ce qu'on doit dire aux dirigeants.
Et donc, les conditions du décrochage sont extrêmement variées. Mais dans les raisons que vous avez citées, Rachid Zerouki, vous n'avez pas parlé de celle de Daniel. Daniel, c'est une dame âgée et son cas, vous allez nous raconter de quoi il s'agit, m'a rappelé plein d'histoires que j'avais entendues dans mon entourage, dans les gens que j'ai pu croiser dans mon propre parcours, dans mes lectures aussi. Parlez-nous un peu de Daniel.
C'est une rencontre qui doit tout au hasard. C'est une rencontre aussi qui doit tout à Antigone, parce que je me rappelle que là où on s'était rencontrés, c'était pendant un trajet en tram avec ma classe de 3e SECPA. On se dirigeait vers le théâtre du gymnase à Marseille pour faire une répétition d'Antigone. Que j'avais en tête avec un ami comédien de jouer Antigone, en fait, avec des élèves de SECPA. Et pendant le tram, il y avait des élèves qui répétaient, qui déroulaient une réplique. Et là, Danielle va entendre ça, elle va réagir par rapport à ça. Vous avez deux générations que tout sépare qui vont commencer à parler de théâtre et d'une pièce qui a quand même quelques centaines d'années derrière elle. Et j'ai trouvé ça très beau, très émouvant, ça m'a marqué, c'est un des plus beaux moments de ma carrière. Et donc, au moment de quitter le tram, cette personne m'a donné son contact, sa carte visite, comme à l'époque. Et elle m'a dit, voilà, pour toute intervention, qu'elle serait ravie de continuer cette démarche avec mes élèves, de partage, en fait, de partage culturel. Elle m'a dit qu'elle-même avait rêvé autrefois d'être enseignante. J'en savais pas plus que ça. Mais donc, je l'ai recontactée pour ce livre. D'abord pour et lui dire que j'avais parlé d'elle dans le premier livre. Et puis, une chose entraînant une autre, je lui ai parlé de ce nouveau livre parce qu'elle était principalement directement concernée. Elle, c'est quelqu'un voilà, qui a quitté l'école sans le vouloir. C'est une décrochée. C'est une décrochée d'une époque très lointaine. Une décrochée d'une époque où, finalement, les études, c'était plus quelque chose pour les garçons. Et donc, Danielle, qui aimait beaucoup l'école, qui rêvait d'être enseignante, elle va avoir son certificat d'études Et finalement, c'est après l'avoir obtenu que sa maman va lui glisser, au détour d'une conversation anodine, que ça va s'arrêter là pour elle. Et donc, elle va en être très, très, très perturbée. Elle va garder ça vraiment comme une blessure. Et même si voilà, son cas dénote un peu du reste des portraits, j'ai tenu à parler d'elle. D'abord parce que c'est une histoire qui est touchante, une histoire qui m'a marqué. Et aussi parce que c'est quand même, derrière cette histoire, on trouve des inégalités de genre qui ont existé dans l'histoire de l'institution et qui, évidemment, continuent d'exister aujourd'hui, sous d'autres formes.
Alors, les inégalités, on va sûrement y revenir, Rachid Zerouki. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a chez Daniel une histoire d'amour brisée et une rupture avec l'école. Mais finalement, cet amour brisé, eh bien, il concerne aussi des élèves qui ne sont pas des bons élèves, qui sont perçus comme des élèves qui ne travaillent pas ou des enfants perturbateurs. Mais aussi, il garde une blessure qui est presque d'ordre sentimental.
C'est une blessure qui est complètement sentimentale. Moi, je l'ai ressentie et j'espère que je suis arrivé à le retranscrire dans ce que je raconte d'un conseil de discipline que j'ai vécu l'année dernière. Un élève qui était mais un boucan en classe, qui était très difficile à gérer, qui montrait très difficilement et très rarement l'affection qu'il pouvait avoir pour l'école. Il fallait vraiment creuser pour voir un quelconque attachement à cette institution. Et finalement, il va être convoqué pour un conseil de discipline pour une très grosse bêtise. Et donc, durant ce conseil de discipline, celui qui n'a jamais rien montré va finalement fondre en larmes, son père aussi. Et donc, on va voir à travers cet épisode, finalement, ce qu'on n'avait jamais vu, c'est cet élève-là. Donc, je parle de lui, mais ça concerne aussi, finalement, tous les décrochés, parce que j'en ai eu aucun qui me disait, finalement, mais moi, je déteste l'école. Non, il y a toujours un attachement qu'il faut parfois creuser pour voir. Et oui, ce sont des histoires d'amour brisé, ce sont des histoires de confiance aussi brisées. Et donc, c'est... Là encore, je pense que ce n'est pas l'image qu'on se fait des personnes qui quittent l'école de façon précoce. On se dit que c'est un lieu qui les a trop fait souffrir et donc forcément qu'ils ont de la rancœur, qu'ils gardent de la rancœur. Et en fait, non. Des années plus tard, moi, j'ai rencontré de l'affection pour l'école, mais aussi une forme de respect pour les enseignants que ces jeunes ont pu avoir. Alors, pas tous. Il y a parfois des enseignants qui ont laissé des traces, des blessures. Il y a des mots qui blessent et qui sont restés pendant des années. Mais il y a aussi, parfois, je le raconte dans le livre, de la confiance qui s'est instaurée entre un jeune et son professeur ou son enseignante. Et finalement, cette bienveillance, elle est autant marquante pour les jeunes que les mots qui peuvent blesser.
Marquante et porteuse, malgré l'échec de la scolarité. Mais en tout cas, cette bienveillance, elle constitue comme un réservoir très, très porteur, malgré la mauvaise expérience de l'école.
Tout à fait. D'ailleurs, cette bienveillance, quand on la reçoit, on a envie de s'en montrer digne. Et moi, je parle d'un décroché dans cet ouvrage qui va faire des très mauvais choix dans sa vie, des très, très mauvais choix liés à de la délinquance, et qui garde en mémoire une enseignante qui a été très bienveillante vis-à-vis de lui jusqu'à son exclusion. Et donc, je lui propose finalement de rencontrer cette enseignante, de la tenir au courant de l'évolution de la situation. Et là, il me dit, mais surtout pas, surtout pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle il a demandé à ce que le portrait soit anonyme, c'est-à-dire que je change de prénom, c'est pour que cette enseignante précise ne sache rien des choix qu'il a pu faire après son exclusion définitive. Lui, il veut raconter que tout se passe bien pour lui. Il me dit que s'il la revoit, il va lui dire qu'il mène sa meilleure vie, mais pas pour se vanter, juste pour lui dire qu'elle a réussi son travail, en fait, et qu'il a été à la hauteur des efforts qu'il juge qu'elle a fournis pour lui.
Comment on convainc un ou une élève de se mettre au travail ?
C'est ce qu'il y a de plus dur lorsque vous avez quelqu'un qui est fâché avec l'école, fâché avec l'apprentissage. On ne convainc pas avec des mots, ça c'est sûr. Je pense que On a parfois tendance à se dire que quelqu'un qui est sur la voie du décrochage, c'est quelqu'un qui a forcément un peu des difficultés scolaires. Et donc, on va lui proposer quelque chose de facile, quelque chose qui va le mettre en réussite pour voilà, chercher à le raccrocher avec des bonnes notes, des compétences vertes. Moi, ce que je retiens de ma pratique personnelle, c'est que c'est vraiment en proposant quelque chose, au contraire, de culturellement ambitieux qu'on va arriver à raccrocher les élèves. Le meilleur projet que j'ai mené avec mes élèves, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Antigone. Et lorsque je dis, par exemple, à mes élèves qu'on va étudier Molière et que c'est ce que font, entre guillemets, les enfants de la classe générale, c'est ce qu'eux appellent les normaux, il y a ce challenge, en fait, il y a cette envie de se dire, oui, je suis au niveau, je peux comprendre, je ne vaux pas moins que les autres. Et moi, je pense que voilà, c'est en proposant un défi qui est raisonnable, mais un défi qui est ambitieux et qui est exigeant.
Alors, il y a beaucoup d'émotions dans cet ouvrage. Il y a aussi, évidemment, parce que vous êtes un enseignant très impliqué, quelque chose qui tourne autour de l'école. Sans que ce soit une critique, elle est, cette école, assez incapable de comprendre, même si on sait qu'il y a beaucoup moins de décrocheurs aujourd'hui qu'il y a 15 ans, par exemple. On sent une école un peu incompétente à saisir ce qui se passe chez les élèves qui n'adhèrent pas à la scolarité. Qu'est-ce qui, pour vous, fonctionne pas dans ce dialogue entre l'institution, ses enseignants et puis les élèves en difficulté?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et ce sont des choses pour moi qui sont très différentes les unes des autres parce que l'histoire du décrochage, c'est une histoire finalement qui entremêle plein de thématiques différentes. Finalement, ce qui ne se passe pas bien vis-à-vis du harcèlement, c'est bien différent de ce qui ne se passe pas bien vis-à-vis des difficultés scolaires. Et le décrochage, c'est un amoncellement de tout ça. Ce sont des facteurs qui s'amoncellent et qui se nourrissent en même temps. Et donc, là où je trouve qu'il y a quand même un point de jonction entre tout ça, c'est dans le manque de communication, dans le manque de compréhension. Et c'est là où je rejoins quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le livre précédent, c'est l'empathie. Je pense que l'école manque, non pas d'empathie, mais de moyens de mettre en œuvre l'empathie. C'est une ressource, un savoir-être qui est absolument nécessaire pour moi dans l'enseignement. Et finalement, le point commun dans l'histoire concernant le harcèlement, dans le portrait concernant la phobie scolaire ou les troubles anxieux, c'est à chaque fois une histoire de mauvaise compréhension de l'élève. Et c'est ça qui ressort, c'est s'il y a une rancœur, elle est liée à ça. Ces jeunes nous disent qu'ils n'ont pas été compris. Est-ce que c'est les enseignants qui comprennent mal les élèves? Moi, je pense qu'il ne faut pas en faire une histoire individuelle. Je pense que l'empathie, elle est le fruit de conditions de travail. Moi, je le vois en classe de SECPA, ce sont des effectifs réduits. Je parle plus à mes élèves, et j'ai le temps d'aller voir leurs dossiers, j'ai le temps de rencontrer leurs parents. Est-ce que c'est possible quand on a 30, 35 élèves, qu'on les voit 2 heures, 3 heures par semaine? Je ne pense pas. Et j'ai plein d'élèves, finalement, qui se sentent mieux dans ces structures spécialisées, justement parce qu'on a le temps de se pencher sur leur parcours de vie. J'ai l'exemple d'un élève que je trouvais particulièrement brillant, alors avec des grosses difficultés scolaires, mais je constate quand même qu'il adore l'école. Il adore l'école, il participe tout le temps le doigt levé, tout le temps placé devant. Il rentre le soir, il essaie de bosser. Nous, on sait que pas, on essaye souvent de garder les cahiers, de donner le moins de travail à la maison parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se jouent à la maison et que tout devrait se jouer en classe. Lui, il demande à garder son cahier avec lui, il révise. Et finalement, je me penche sur son dossier et je vois que sur ses bulletins, il est écrit que c'est un garçon trop réservé, qu'il n'ouvre jamais la bouche en classe, qu'on le soupçonne d'avoir des troubles autistiques, que les résultats sont catastrophiques. Je ne reconnais pas, en fait, ce garçon. Et c'est un garçon qui s'est découvert lui-même dans une classe à effectif réduit. Et finalement, on comprend que c'est des difficultés qui le menaient à être dans cet état-là. C'est que, en fait, en arrivant en France, il était sans domicile fixe. Et il vivait dans une voiture, tout simplement, stationnée dans un parking d'hypermarché. Et ça, on ne peut le comprendre que si on exerce de l'empathie. Et cette empathie, on ne peut l'avoir que si on a le temps et la possibilité de l'exercer. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord quand on dit que tel prof est meilleur parce qu'il comprend mieux. Je pense que tout est une histoire, peut-être pas tout, mais c'est beaucoup une histoire de conditions de travail et de mettre en place des conditions propices à ces savoir-être. Parce que si on réduit ça à des qualités personnelles, ça veut dire que finalement, nos dirigeants ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est finalement chercher les meilleurs professeurs qui soient.
La chanteuse marocaine Oum. C'est le choix musical de Rachid Zerouki, lui-même d'origine marocaine et enseignant à Marseille, en SECPA, on l'a dit. Alors après le décrochage, nous avons parlé des relations professeur-élève, relations pédagogiques et relations humaines complexes. L'école a pour fonction d'évaluer les élèves sur leurs résultats, mais aussi sur leur comportement. Les enfants se sentent souvent jugés personnellement par leurs enseignants et par l'école. Alors, quelle réflexion cela inspire-t-il au professeur Zerouki ?
C'est sûr que quand on lit les bulletins, et je pense que vous le voyez sur le bulletin de vos enfants, moi je l'ai lu sur mes bulletins à moi, on est jugé sur sa personne. Mais moi je pense que c'est une erreur que fait l'institution de juger des personnes. Je pense que ce qui nous est demandé, ce qui doit nous être demandé, c'est toujours de juger le travail des personnes et pas les personnes en elles-mêmes. Ça se recoupe parfois, mais en réalité, c'est très différent. Il y a un monde entre dire à un élève « tu es nul en maths et ton travail n'est pas satisfaisant » ou alors « tu n'as pas atteint telle compétence ». Parce que dans un cas, ça peut engendrer une blessure parce qu'on juge la personne. Dans l'autre cas, c'est le travail, c'est quelque chose d'extérieur. Et moi, voilà, c'est un collègue qui m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle on doit faire beaucoup attention, notamment dans les écrits, parce que les écrits restent, que ce soit les appréciations dans le bulletin ou alors autre chose encore de plus marquant, ce sont les rapports d'incidents. Dans les rapports d'incidents, on peut parfois avoir tendance à juger le comportement. Alors, le rapport d'incident, c'est... comme son nom l'indique, lorsque se produit un incident, donc un problème de comportement, une bagarre, une règle de vie en classe qui n'a pas été respectée. Parfois, au-delà du mot dans le carnet, on peut aller au rapport d'incident qui va rester dans le dossier de l'élève pendant un certain temps. Donc c'est quelque chose qui est plus grave qu'un mot dans le carnet. Et c'est forcément quelque chose qui a plus de portée, plus de gravité. Et donc les mots qu'on choisit pour écrire ces rapports d'incidents sont à vraiment peser. Et c'est là où je dis qu'il faut être vraiment rigoureux sur le fait de juger les actes et pas la personne, parce que c'est là où on a le plus tendance à déraper. C'est dans les rapports d'incidents, et ce sont des rapports d'incidents ensuite qui sont lus à haute voix dans les conseils de discipline. Et là, il faut imaginer. Il faut imaginer être un parent d'élève, assister à un conseil de discipline, et on vous sort 7, 8, parfois 20 rapports d'incidents, et on les lit à haute voix. Et comment vous vivez ce moment lorsqu'il y a des jugements, non pas sur les actes, non pas sur des règles qui n'ont pas été respectées, mais sur la personne, sur votre enfant, qui est le fruit de votre éducation? C'est très douloureux donc pour l'enfant, c'est très douloureux pour les éducateurs, les parents. Et je pense que être moins dans le jugement de la personne et plus sur le travail, c'est vraiment un axe de travail pour l'institution.
On parle de l'empathie des enseignants envers leurs élèves. Est-ce que l'institution est empathique, pour reprendre votre mot, Rachid Zerouki, avec ses troupes?
Non. Il y a un mal-être dans l'éducation nationale, dans le corps enseignant. Les salles des personnels sont de plus en plus mornes. Et voilà, on a souvent cette métaphore dans le monde de l'enseignement pour décrire la motivation que peut avoir un enseignant. Et cette motivation qui va au-delà du travail qui nous est prescrit, ce supplément d'âme, c'est ce qui permet d'avoir des défis, en fait, de lutter contre le décrochage, de lutter contre le harcèlement. C'est nécessaire, c'est pas seulement un bonus. C'est ce qui permet de dépasser sa fonction. Comme sur un terrain de foot, on va faire au-delà de ce qui nous est demandé. Ça, je pense que c'est pas possible quand on se sent soi-même négligé. Et là, même si on essaye de garder cette flamme, de garder cette motivation, moi j'estime l'avoir encore, mais quand même, elle est en danger. Je suis content de faire ce travail, mais c'est difficile de rester hermétique face à ce qu'on traverse dans l'éducation nationale. Je fais un travail qui attire maintenant la compassion des gens. On me souhaite d'avoir de la patience. Et je trouve que, voilà, je pense qu'il y a une vraie évolution. On nous plaint. Et c'est pas agréable, je veux dire, c'est gentil. Mais c'est pas agréable de faire un travail, on a l'impression que plus personne ne veut le faire. On va supplier des gens pour se mettre devant des élèves, alors que c'est un travail qui est magnifique et j'espère que j'arrive quand même à retranscrire la beauté du métier par moment.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir enseignant au départ? Est-ce que vous parlez de vocation d'ailleurs pour ce métier?
Personnellement, j'ai une très bonne relation avec l'école française. La bonne relation que j'ai ne doit pas absolument servir à effacer les mauvaises relations que peuvent entretenir certains anciens élèves avec l'école. Il y a des injustices, l'école ne fait pas toujours bien son travail et mon cas personnel ne doit pas servir à justifier et à masquer ces parcours-là. Mais moi, j'ai bien été reçu par l'école française. Voilà. Je suis passé d'une école marocaine dont je garde des mauvais souvenirs parce qu'il y avait des gestes professionnels parfois très discutables. Donc j'arrive dans cette école qui m'accueille avec un professeur super bienveillant, qui m'apprend la langue déjà, qui est patient avec moi, on m'offre le matériel scolaire. Et finalement, voilà, je suis attaché à l'école française. Et finalement, même si je n'ai pas toujours eu cette vocation, même si je n'ai pas toujours eu la volonté de devenir professeur, ben c'est un stage durant ma fac, en fait, qui me fait avoir cette idée définitivement. Moi, j'étais dans un DUT hygiène, sécurité, environnement parce que je voulais être pompier à la base. Et donc, j'ai fait pas mal de stages parce qu'il fallait faire des stages tout simplement, pas dans son champ de métier. Et donc, j'ai fait un stage dans une école primaire pour étudier la sécurité dans cette école primaire. J'ai rencontré des professeurs, j'ai vu leur façon de travailler, l'implication qu'ils avaient, j'ai vu les coulisses de cette école qui m'a quand même beaucoup apporté. Et voilà, c'est ce stage qui m'a profondément fait changer ma réflexion et qui m'a orienté vers ce métier.
Comment on passe d'enseignant à enseignant engagé? Quand je dis engagé, ça veut dire que vous prenez la parole, Rachid Zerouki, sur les réseaux sociaux, en écrivant des livres, c'est votre deuxième ouvrage, et puis aussi en écrivant des articles, on a pu vous lire par exemple dans Libération.
Je pense que, voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire. Ça, même avant le métier de professeur, même avant l'enseignement, j'écrivais. Je me rappelle par exemple qu'à la fac, j'écrivais des petits statuts Facebook, marrants ou pas, que personne ne lisait. J'avais quelques likes, c'était ma maman, mes plus proches copains qui mettaient un j'aime par compassion. Mais moi, j'aimais faire ça. J'aimais beaucoup. Et puis, je vais avoir un énorme prétexte pour écrire, une raison d'écrire, c'est lorsque je vais arriver en SECPA, avec donc des jeunes qui sont en grande difficulté scolaire, et je vis des choses qui sont très fortes, je vois des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont en énorme décalage avec les discours qu'on peut avoir sur l'école et sur ces jeunes-là en grande difficulté, et donc je ressens le besoin de raconter. Et c'est là où ma passion pour l'écriture va rencontrer mon métier, c'est parce que je vais avoir envie et besoin de raconter ce que je vois. Et je vais le faire dans des revues d'abord bénévoles, et puis il va y avoir Libération, et ensuite, petit à petit, voilà, j'en suis venu à publier des ouvrages. Donc, engagé, oui, dans le sens où j'ai des idées sur l'éducation, où je les défends, mais je tiens quand même à garder une grosse distance avec les certitudes, les dogmes. Parce que je n'ai pas de recette à vendre pour soigner tous les maux de l'éducation nationale. J'ai des alertes sur les conditions de travail, sur les inégalités sociales, les inégalités scolaires. Ça fait partie de mes certitudes. Mais je ne me sens pas légitime pour aller dire à tous mes collègues, voilà, j'ai une méthode, elle va changer le monde. À partir de maintenant, on va faire comme ça et tout le monde va réussir à l'école. Ça, j'ai pas ça. Donc je préfère rester clair là-dessus. Être enseignant engagé, c'est aussi être enseignant quelque part médiatisé. C'est aussi, quand on arrive dans un nouvel établissement, avoir peur, avoir une anxiété à l'idée que beaucoup de personnes savent ce que vous pensez sur les choses. Et ça, c'est pas la partie la plus agréable du fait d'être engagé, d'être médiatisé. Donc voilà, je garde cette distance avec, j'essaye en tout cas, avec la condescendance et avec le fait de savoir mieux que tout le monde, parce que je suis un professeur comme les autres.
Il y a quelque chose, Rachid Zerouki, qu'il faudrait qu'on précise, et on va le faire ensemble, c'est que quand vous écrivez dans des revues, dans un journal quotidien, et même dans ce dernier livre, Les Décrochés, vous parlez de vos expériences, mais vous vous nourrissez aussi à la source de la science, des chercheurs sur l'école. On en découvre un certain nombre avec vous. Par exemple, quand vous parlez du harcèlement scolaire, pourquoi cette dimension est importante, en fait?
Cette démarche-là, elle est importante, elle est même cruciale. On parle de formation continue. Et je pense que dans l'enseignement, comme certainement dans tous les métiers, il faut sans cesse se renouveler, il faut sans cesse se questionner, il faut sans cesse confronter sont vécus à la théorie, de la même façon que la théorie doit se confronter au vécu. Et moi, je ressens le besoin et l'envie d'aller vers des chercheurs qui ont fait des études pour avoir du recul. Parce que c'est ça que ça donne, la science de l'éducation, beaucoup, ça donne du recul. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir beaucoup l'opportunité de le faire. L'une des raisons pour lesquelles j'écris, pour lesquelles je suis content d'écrire, c'est que ça me pousse à voilà, aller à la médiathèque, aller dans les rayons sciences de l'éducation, voir ce qui s'écrit. C'est une nécessité. Alors, un exemple de chercheur concernant le harcèlement, ça va être Anatole Picas. Donc, c'est un penseur scandinave qui va avoir, bon, ça fait un moment, c'est dans les années 70, une vision très, finalement, novatrice de ce qu'est le harcèlement. Lui, il va commencer à dire que il n'y a pas juste un harcelé et un harceleur. Il n'y a même pas une bande de harceleurs et un harcelé. Que c'est un phénomène de groupe. Qu'il y a plusieurs façons de participer à un harcèlement. Et ça, moi, dans tous les cas de harcèlement que je vois, il y a toujours cette histoire de groupe. Et ça change forcément la façon de répondre au harcèlement. On arrive à un moment donné à faire arrêter le harceleur en chef, mais ça n'arrête pas le harcèlement. Parce que c'est un phénomène, lui il appelle ça un phénomène de meute, et chacun participe de façon plus ou moins intense. Et donc c'est pas simplement avec de la répression et de la répression dirigée vers le harceleur en chef qu'on va finalement remédier à certaines situations. Donc lui, en plus d'analyser le harcèlement, il va proposer des méthodes, une méthode qui va porter son nom, la méthode Picasse. Et il va dire que voilà, le harcèlement, ça se traite sur la durée. Ce n'est pas simplement avec la répression, même s'il n'est pas contre la sanction, mais il va dire que voilà, le harcèlement, on y met fin avec de la communication. Donc on va rencontrer le harceleur désigné, mais aussi les personnes qui l'entourent, ceux qui participent par petits bouts à ce harcèlement, et on va les rencontrer une première fois, on va les rencontrer le mois d'après, plusieurs mois après, pour voir l'évolution de la situation. Forcément, c'est une méthode qui traverse les âges, donc qui a fait ses preuves, et pour autant, elle est très difficile à mettre en place dans les établissements, parce qu'on revient toujours à la même question, c'est une question de moyens humains. Vous avez besoin de temps, de beaucoup de temps pour appliquer la méthode Picasse. Vous rencontrez l'élève une première fois, vous avez besoin d'une demi-heure pour poser toutes les questions qu'il préconise. Et puis vous devez assurer un suivi vis-à-vis de la personne victime, mais aussi vis-à-vis de tout un groupe. Ce sont des heures et des heures. Et en fait, si on veut appliquer la méthode Picasse aujourd'hui, ça reposera sur du bénévolat.
Ce que je retiens, Rachid Zerouki, c'est qu'on a besoin de temps pour faire circuler la parole. Cette parole, vous la faites circuler aussi de l'école vers l'extérieur. Est-ce qu'il faut des témoins pour raconter les élèves d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas le seul enseignant à écrire. Je pense à Alexis Potchke, que j'ai déjà reçu dans l'émission, qui est enseignant au collège. Anouk F., qui est enseignante en école élémentaire. Nathalie Quintane, qui est poétesse, mais qui a écrit aussi un livre génial qui s'appelle Un hamster à l'école et qu'on avait interviewé. Bref, est-ce qu'il faut des enseignants témoins pour raconter à la société ce qui se passe dans les classes, comment sont les enfants d'aujourd'hui, comment fonctionne l'institution, comment fonctionnent les relations?
Oui, totalement. Moi, je pense que on croit avoir tous une idée de comment ça se passe précisément à l'école. Mais quand on s'intéresse aux représentations qu'ont les gens, on se rend compte que, oui, ils savent comment ça se passe à l'école. Mais à l'école d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, leur école, l'école a beaucoup évolué. Et moi, même si je suis assez critique vis-à-vis de l'institution, je trouve que parfois l'école prend des coups injustes parce que il arrive qu'on lui reproche des choses dont elle n'est plus coupable depuis quelques années. Je pense par exemple au statut de l'erreur. On a beaucoup, à mon sens, évolué sur la place de l'erreur dans le parcours éducatif des jeunes. Moi, quand j'étais à l'INSPE, on m'a dit voilà, l'erreur c'est une étape normale de l'apprentissage. Donc c'est quelque chose entendu. Je pense tous mes collègues, et pourtant, voilà, dans certaines conférences d'influenceurs sur TEDx, par exemple, l'école est rendue coupable de ne pas tolérer du tout l'erreur et d'être juste finalement un lieu où on va accumuler de la connaissance et puis la recracher le jour de l'examen. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts sur ces questions-là, qu'on a évolué. Mais c'est là où il y a besoin quand même d'avoir des témoins et de raconter l'école dans sa globalité, ou aussi, comme le fait Alexis, dans ces petits moments, ces petites anecdotes en fait, qui se passent en classe et qui, mine de rien, sont très porteuses de vérité. Parce que ça permet vraiment de saisir les dialogues qu'il peut y avoir en classe, les mécanismes qui se jouent, et aussi l'émotion qu'on peut avoir au quotidien, la beauté du métier.
Donc je rappelle Alexis Potchke, c'est un enseignant de collège, on peut le lire par exemple sur Facebook. C'est vrai que c'est souvent émouvant. Alors il n'y a pas que la réalité de la classe, il y a aussi la réalité des élèves de milieux populaires, puis plus globalement des gamins d'aujourd'hui, la manière dont ils parlent. Il y a des choses dont j'ai l'impression qu'elles bougent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de ces changements, s'ils existent, dans vos classes, à travers les élèves que vous rencontrez?
Alors, on parle énormément de changements, de générations, de caractères différents. Très souvent, c'est pour en dire du mal, pour raconter l'histoire d'une régression. Et je trouve qu'il y a une prise en compte de plus en plus précoce de ce qui se joue à l'échelle de toute une société. C'est-à-dire que l'injustice, on va en parler en sixième, cinquième, et ça sera pas une injustice qui s'est déroulée dans la classe, c'est pas juste un vol de stylo. On peut parler d'enjeux de société de façon de plus en plus précoce. Et moi, je pense qu'on doit beaucoup ça à quelque chose qui est extrêmement diabolisé, ce sont les réseaux sociaux. J'en parle aussi dans le livre, enfin j'en parle pas, c'est une jeune fille qui m'en parle, qui me dit que pendant que sa phobie scolaire était à son paroxysme, le refuge qu'elle a trouvé, c'était sur Discord, un réseau qui est moins populaire, mais qui met en relation finalement des personnes entre elles. Et ça peut être un refuge, ça peut être un lieu où on se cultive, où on s'éduque. Alors, il y a de tout, bien évidemment, il y a des choses qu'il est préférable d'éviter, mais c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus pour l'orientation de l'usage et pour la restriction que pour l'interdiction des réseaux sociaux. Sur TikTok, par exemple, même qui est très décrié, oui, il y a du contenu pour réaliser les injustices liées au genre qui peuvent exister. Je pense que, voilà, le féminisme, par exemple, c'est un thème qui est abordé très tôt par les élèves et je pense qu'ils vont chercher ça, oui, sur TikTok, peut-être plus que dans les cours d'enseignement moral et civique.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sinks as I jumbo. Your hand grips and as my heart is shutting up.
Brice Blocks, un court extrait de Alt J dans cet entretien assez long avec Rachid Zerouki. Alors au-delà du témoignage et du récit de la vie de la classe, l'objectif de l'enseignant, c'est de parler de ses élèves. Ils ont un faible niveau, on l'a dit, ils sont mal perçus, même au-delà de l'école. Alors faut-il leur rendre justice par les deux d'une manière valorisante? Quel est le fondement et le sens de cette démarche? Comment cela se traduit-il dans le travail en classe?
Alors moi, personnellement, j'estime avoir une dette vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de cette jeunesse-là, de ces jeunes que j'ai au quotidien en SECPA, parce que voilà, on dresse une image de ces jeunes en difficulté scolaire qui est totalement erronée. Moi, je sors de 3 ans à suivre la même cohorte d'élèves. Je peux vous dire que ça crée des liens et qu'on apprend à voir ces jeunes-là sous toutes leurs facettes. On apprend à connaître leurs parents, on apprend à connaître leur vie intime, et on trouve du plaisir à exercer ce métier quand cette relation de confiance s'installe. Moi, la relation de confiance s'est installée, parfois au bout de quelques mois, au bout d'un an, et donc j'ai pu profiter le reste du temps de beaucoup de respect, de beaucoup de confiance, de rire aussi. Et j'ai vraiment vécu peut-être mes plus belles années de ma carrière dans ce que je viens de vivre. Et ça, je le dois aux élèves. Parce que, voilà, vous arrivez le matin, vous avez des sourires, on vous dit bonjour, on vous demande comment ça va et on s'intéresse à comment vous allez. Et puis, on s'intéresse aussi à ce que vous racontez, en histoire, en français. Et parfois, on travaille même pas parce qu'on a envie, même pas, mais juste pour vous faire plaisir. Ça arrive aussi. Et c'est gentil. Et donc, j'ai reçu beaucoup de gentillesse, j'ai vu beaucoup de qualités humaines, de vertus. J'ai vu des élèves extrêmement solidaires entre eux. J'ai vu un élève se faire voler sa trottinette et puis les 15 autres aller pour retrouver la trottinette. Et tout ça, c'était beau à voir. Ça m'a donné envie d'enseigner. Et c'est un luxe d'aimer son travail. Et ça, je dois ça à ces jeunes-là. Donc, non seulement je les remercie, mais oui, je pense que avoir une audience me donne la responsabilité de dire qui ils sont réellement. Et lutter contre ces discours qui dénigrent constamment la jeunesse.
Ah ben on a un exemple précis, récent. Il y a un film sur les SECPA, inspiré d'une série YouTube. Donc, ces élèves en difficulté scolaire qui sont dans des dispositifs de remédiation, donc moqués à travers ces fictions. Et vous, bah, vous êtes en quelque sorte dressé, Rachid Zerouki, contre la sortie de ce film en expliquant la réalité des SECPA. Vous êtes posé en défenseur de vos élèves en faisant le maximum de bruit, c'est ça aussi l'idée de justice quand elle se concrétise dans l'espace public aujourd'hui. Et cet espace, il est important pour vous.
Oui, c'est typiquement un moment où j'avais cette responsabilité-là. C'est-à-dire qu'il y avait une œuvre culturelle qui sortait sur ce qui doit être mon quotidien et je la trouvais en décalage total avec la réalité. Donc j'ai réagi avant la sortie du film, mais aussi parce que la série existe depuis très longtemps. On y voit des jeunes en SECPA qui viennent habillés en tenue de crocodile avec le slip par-dessus le pantalon, on les voit faire les cons, on les voit être cons profondément. Et donc j'ai voulu vraiment donner un autre son de cloche. J'ai pas demandé à ce que le film soit censuré. J'ai pas demandé à ce qu'on pourrisse les auteurs. J'ai juste dit, voilà, j'ai une autre réalité à vous raconter. Celle de jeunes qui sont intelligents, qui ont des idées sur les choses, qui ont autre chose à transmettre que ça. Et donc, j'ai parlé et j'ai été rejoint par beaucoup d'autres collègues de SECPA. Donc c'est pas juste, il y a eu des titres, oui, Rachid l'incite, la colère contre le film. Non, c'est la colère des enseignants en SECPA qui ont voulu dire non, non, ça se passe pas comme ça. Je suis pas contre tout ce qui se fait au cinéma. Par exemple, La vie scolaire, le film de Grand Corps Malade, il était assez juste, assez crédible vis-à-vis de ce que je vois au quotidien. Et donc voilà, j'ai ressenti le besoin de raconter ça. Et ça passe par des threads sur Twitter, mais ça passe aussi parfois par des projets. Par exemple, quelques semaines après la sortie de ce film, j'ai mené un projet avec mes élèves qui consistait à créer des idées pour la ville de Marseille, pour améliorer la ville de Marseille. Donc on a réfléchi sur les thématiques d'écologie, d'éducation, de transport. On a fait des idées, je suis intervenu vraiment juste pour animer les débats. On est allé à la mairie, il y a monsieur le maire, Benoît Payan, qui a passé un peu de temps avec nous, qui a vu les idées, et les gens là-bas, à la mairie, nous ont dit « mais en fait, ça, ce sont des idées d'élus, des idées qu'on défend, vraiment, dont on parle dans le conseil municipal. » Ça veut dire que, voilà, ces jeunes, ils ont quand même des idées et de l'intelligence où on peut puiser et c'est injuste de se moquer. On peut rire avec, mais rire d'eux, c'est quand même beaucoup moins sympa.
Alors, ça veut dire aussi, pour vous, si on vous suit, Rachid Zerouki, qu'il n'y a pas d'abrutis, il n'y a pas de personnes idiotes ou que ça n'existe pas chez les enfants, chez les ados. C'est parier sur l'éducabilité. Est-ce que vous pensez que ce discours aujourd'hui n'est pas assez présent ?
Oui, je pense moi qu'il n'existe pas d'abrutis. Je pense qu'on peut, et c'est là où je rejoins ce qu'on a dit en début d'émission, on juge les actes et pas les gens. Donc on peut commettre des actes d'abrutis. On peut faire des bêtises absolument incroyables. Et je peux vous dire que j'en ai vu et j'ai écrit des mots dans le carnet de correspondance qui sont à peine imaginables. Donc on peut avoir des comportements parfois insensés, peut-être même bêtes, on en a tous eu. Mais oui, il y a un pari à faire sur l'éducabilité. Enfin, il faut être convaincu de l'éducabilité de tous pour enseigner. Il faut que l'école elle-même, l'institution, soit au clair sur ça. Par exemple, on parle d'abruti, on parle d'idiot. C'était quand même des termes institutionnels il y a quelque temps. Avant même la SECPA, avant la classe de perfectionnement, il y avait des élèves qu'on jugeait irréparables. Et donc, notre seule marge de manœuvre, c'était de les éloigner des autres pour qu'ils ne représentent pas un poison. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus là-dedans. Et donc, ça veut bien dire que quelque part, l'école a fait le pari de l'éducabilité de tous. Et voilà, il faut maintenant tenir ce pari, tenir ces convictions-là. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation lui-même dit que l'école n'est pas tendre avec les enfants pauvres. Je crois qu'il emploie à peu près ces mots-là, peut-être pas ces mots précis. Mais donc, ça veut bien dire qu'on a des efforts à faire en ce sens.
Allez, on termine sur la ville de Marseille, parce que c'est pas rien comme symbole pour l'éducation, symbole peut-être négatif. Ça fait longtemps qu'on parle de la pauvreté des établissements publics scolaires de Marseille. La ville fait l'objet d'un plan spécifique avec des millions investis dans certaines écoles, sur des appels à projets. Et c'est tout un contexte, Marseille, avec des quartiers très populaires dans le centre de la ville, des écoles extrêmement évitées aussi, et puis un mix culturel. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner à Marseille, vivre et travailler à Marseille ?
Je pense qu'enseigner à Marseille, c'est enseigner dans un laboratoire de l'éducation, parce que les thématiques dont on parle beaucoup aujourd'hui sont exacerbées. La mixité sociale, par exemple, à Marseille, je pense que si on y arrive à Marseille, on y arrivera partout ailleurs, parce qu'il y a une telle ségrégation sociale que le défi est immense. Pareil sur finalement ces histoires de décrocheurs. Donc le décrochage, comme je le montre dans le livre, il est quand même assez lié, pas toujours, mais des fois à la délinquance. La délinquance, on en parle aussi beaucoup à Marseille, c'est une grande thématique. Et donc finalement, enseigner à Marseille, c'est essayer de lutter contre des obstacles qui se trouvent partout ailleurs, mais qu'on voit davantage à Marseille. Et donc, je pense que Marseille peut servir à donner l'exemple. On a une nouvelle mairie qui est, je pense, plus sensible sur ces questions de d'établissements en ruine. On part de très, très loin. Et donc, le temps nous dira si on va y parvenir. Mais je pense que si on y parvient à Marseille, ça sera retentissant. Et ça voudra dire qu'on peut y arriver partout en France.
Vous vous rendez compte aussi que vos élèves vont parfois très peu à la mer, connaissent pas la garrigue autour de Marseille. On la voit hein, vraiment en ville de plein d'endroits et profitent assez peu du cadre assez chouette de cette ville qui attire aussi beaucoup de Parisiens aujourd'hui d'ailleurs. À Marseille ou ailleurs, est-ce que le travail du professeur, c'est d'amener aussi les élèves à considérer l'espace autour d'eux?
À Marseille, je crois, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue, je ne saurais pas vous dire si c'est le cas partout ailleurs, mais je vois des élèves qui sont très attachés à leur quartier. Et en SECPA, vous avez des élèves qui viennent de quartiers très différents parce qu'il n'y a pas de sectorisation en SECPA. On va là où il y a de la place et parfois on doit faire beaucoup de chemin. Et donc, il y a cet attachement au quartier, il y a cette connaissance de son environnement très proche. Mais c'est vrai que dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est beaucoup plus rare. Moi, je me souviens d'une simple sortie au parc Borély où j'ai vu des élèves, mais éblouis, qui sautaient partout, qui ont passé un après-midi formidable et qui me disaient « mais c'est une des meilleures sorties ». En fait, c'était une sortie de fin d'année, j'avais strictement rien prévu, il n'y avait pas d'objectif pédagogique. Je les ai emmenés au parc Borély, on s'est posé, on a fait un pique-nique et c'était une des meilleures sorties pour eux parce qu'ils ne sortaient pas au parc. Et encore moins à la mer. Et donc oui, c'est un défi pour l'école, c'est encore une fois une question de moyens, d'ambition. Et à Marseille, on le voit beaucoup parce que on a des gens qui, et de plus en plus d'ailleurs, qui viennent de très loin pour profiter de toutes les beautés que Marseille a à offrir, et vous en avez beaucoup. Et vous savez, des gens qui sont à Marseille et qui ne profitent pas de ça. Et c'est pas simplement une question d'accès. C'est une question d'accès parce que les transports sont très limités à Marseille. C'est en train d'être revu. C'est aussi une question de réflexe. Qu'est-ce que je vais faire de mon après-midi ? Voilà, le tout, c'est de donner des idées. Et justement, moi, c'était une réflexion que j'ai eue l'année passée. J'avais prévu un voyage scolaire que j'ai dû retarder une première fois, une deuxième fois, le Covid s'invitant par-ci, par-là. Donc, j'ai revu les choses un peu à la baisse et au lieu du voyage scolaire, j'ai utilisé le PAM, donc la subvention qu'on demande au Conseil général, pour organiser des petites sorties. Et en fait, je me suis rendu compte que ces sorties-là, elles sont beaucoup plus utiles que partir loin, que faire du ski, parce que c'est quelque chose qu'on peut remobiliser. J'ai emmené les élèves faire de la plongée, par exemple. Et en fait, la plongée, ça peut être accessible pour des jeunes Marseillais. C'est pas quelque chose qui est totalement hors de prix. Il y a des aides qui peuvent vous aider à faire de la plongée. Et finalement, voilà, peut-être que je leur ai donné l'idée ensuite de faire ça. Et si je les avais emmenés au ski, bah, ça aurait été une belle découverte, mais ça aurait été le coût d'un seul voyage. Donc je pense que c'est encore plus nécessaire de développer la connaissance de l'environnement proche que de l'environnement lointain. Parce que le proche, on va pouvoir le remobiliser. Je l'ai vu à la plongée, je l'ai vu au cheval, on a fait de l'équitation aussi. Et voilà, ça, je pense que ça peut être une ambition et ça doit être une ambition pour l'école.
L'école était accrochée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes naient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Faut s'y ancrer dans mon ADN, claquette des KTM. On fait le monde assis sur le capot de la BM. Coincé entre mépris, des poches gonflées de thunes et les buts insipides des bouffes qui se font gonfler le cul. Je suis un enfant des grues des containers, mais considère que ce petit lopin de terre nous confédère. On suit la voix du Mike de la Solia Benza, IAM, MRS.
Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Va pas si tu sais pas teaser, tire pas si tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. Samedi soir électrisé, pareil que ça se fight au vieux port. Sorti de boîte arrosée, Bruncha ça veut s'arroser. On passe en décapotable, comme des bad boys. Mais vu nos têtes, Chiquita elle veut pas causer. Elle sait que ça veut pas se poser. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout cagoulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire tourner par un mec dans le bar d'à côté.
On dit plus Versace, on dit chemise à l'Alger. Lunettes Cartier, les petits ont repris le rinté. Bois un coup à ma santé, c'est PD font que me SV. Change de fuseau horaire, j'fais le tour du monde, j'suis jet lagué. Marseille la nuit, ça roule en bolide. Brelique, ça veut du liquide. Wahed hypocrite, tu portais le masque avant le Covid. Ça va trop vite, même ton ami te trahit. De rafale et présente les condoléances à ta famille. Les petits en roue arrière, sur la canebière. Sors le cross volé, j'ai vu sur la mer. J'ai trop vu la mer, arrête de t'affoler. On fera pas affaire, tu prêtes 20 000 euros pour pas te rembourser. Il est capable de faire, on bosse avec des couches tard.
Eh ouais, l'Alger de la case, on bouge tard, on bouffe tard.
La quicheta ou la pouche.
Tous les jours, j'attends mon heure, les genoux nourrissent mon.
On parlait de Marseille, on se quitte avec le collectif très organisé, jeu de mots. Vous aurez peut-être reconnu les voix d'Akhenaton et Shuriken, il y a aussi Joule dans ce collectif marseillais. On a entendu donc Rachid Zerouki tout le long de cette émission. L'enseignant public est décroché chez Robert Laffont. Je ne saurais que trop vous conseiller cet ouvrage. Vraiment, à la fin, il y a aussi des entretiens avec une psychologue, une assistante sociale, Yes Loufoc, des enfants défenseurs, des enfants placés, et on apprend encore plein de choses. Être et savoir, qui s'écoute aussi en replay, est préparé chaque semaine avec Avril Ventura. C'est Perret Legras qui en assure la réalisation et nous remercions collectivement Jean-Frédéric qui était à la technique pour ce numéro.